On enregistre.
Le 19 décembre, dans mon cinéma de campagne, 2 heures avant que ça ouvre, jamais il y a besoin d'arriver 2 heures en avance. Et j'arrive, il y a déjà du monde. 2 heures plus tard, arrive le guichetier, la file d'attente est faite 2 fois la rue. Genre, ça monte et puis ça redescend. Et là, il nous demande, il se passe quoi aujourd'hui? On projette un truc. Donc, on entre dans la salle, l'écran s'éteint, et là, en quelques secondes, la musique, les images, on se rend compte dans la salle qu'on est en train de vivre un moment du cinéma. Les Hobbits, la Comté, Gandalf qui arrive, tout est bon, tout est formidable.
Moi, j'étais sorti vraiment conquis du cinéma.
Et puis, bam! Vraiment une claque aussi bien sonore que visuelle. Et c'est pendant 3 heures, t'es assis dans le fauteuil et tu décroches pas, quoi.
Le film se lance et j'ai jamais rien vu de tel. Et salut à tous et bienvenue dans ce 84e épisode du podcast d'Elbakin.net. On est de retour et par avance, on s'excuse de ce petit retard à l'allumage. J'allais dire retard à l'allumage. Vous n'avez pas eu autant de podcasts que vous auriez dû en avoir ces derniers mois. C'est notre faute. Donc, on tient à vous présenter nos excuses pour ça. On va essayer d'être un petit peu plus régulier dès le début de l'année 2022. On est en train de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est la première chose que je tenais à vous dire au nom de toute l'équipe. Sans plus attendre, on va attaquer avec ce podcast. Donc, nous serons 4 autour de cette table. Nous avons donc Gilles Tanas avec nous.
Bonsoir.
Nous avons l'unique, l'inénarrable Foradan.
Bonsoir, ou bonjour, ou bonne nuit, ça dépend.
Il est toujours là avec nous, impossible de s'en débarrasser, c'est Gilo Sen. Salut Gilo.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Et je suis Giggs, votre serviteur. Donc, vous l'aurez remarqué, nous déplorons pour cet enregistrement la non-présence de nos homologues féminines qui sont restés sur le podcast Metal, notamment Safron et Alessia. Donc, pour des contraintes d'horaire d'emploi du temps, malheureusement, nous ne serons que nous 4. Qui dit mois de décembre 2021 dit anniversaire à célébrer, mois anniversaire. C'est en effet en décembre 2001, il y a 20 ans, que sortait La Communauté de l'Anneau au cinéma. Donc, ça fait 20 ans, ça y est. Et pour célébrer ces 20 ans, bah, quoi de mieux que de faire un podcast, de faire une commémoration de l'adaptation, pour parler de l'adaptation du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson au cinéma. Parce que 20 ans, c'est une sacrée période de temps. Rappelons-nous, hein, mais en 2001, on payait encore sa séance de ciné en francs. Hein, oui, Gilles Lossen pourra en parler. On pouvait également louer un DVD, on pouvait même louer une VHS aux vidéos futures du coin. Mais également, 2001, c'était aussi les débuts du site Elbakin.net. Donc, tout ça, c'est un petit peu lié. Et donc, c'est de ça qu'on va reparler aujourd'hui. Donc, vous allez donc revivre un petit peu avec nous la période 2001 et alentour. Peut-être que vous étiez déjà né comme nous, ou peut-être pas. Dans ces cas-là, ça va être chouette dans les deux cas. Donc, venez avec nous, on vous emmène pour un petit voyage dans le temps, faire vibrer un petit peu la corde nostalgique.
Gandalf, my old friend, this will be a night to remember.
Donc, on va commencer tout de suite et faire une petite remise dans le contexte de 2001. Avant, quand on pensait au Seigneur des Anneaux, on pensait généralement au livre de Tolkien, bien sûr. On pensait peut-être également à une première adaptation de Ralph Bakshi qui est paru en 78. Je pense que tout le monde l'a vu autour de cette table, peut-être pas.
Oui.
Malheureusement, oui.
Malheureusement.
Oui, oui. Un dessin animé très, très particulier.
Voilà.
Mais alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette adaptation, je pense que Le souvenir que j'en ai, c'est que la jaquette est annonciatrice de la promesse de la jaquette est plus sympa que ce que te délivre le film.
Ah, mais la jaquette est épique.
À l'affiche, oui, avec
Gandalf.
Gandalf, l'épée, c'est vraiment. Bah, elle était au-dessus de mon lit, hein, franchement, pendant quelques années.
Je l'ai encore.
Quand j'étais plus jeune. Mais bah, malheureusement, c'est un peu comme quand tu tombes sur un livre avec une super couve et que l'intérieur n'est pas à la hauteur. Alors, je sais qu'il a ses défenseurs. Hein. Personnellement, bon, ça a quand même été une déception, vu que quand je l'ai découvert, ben, moi j'étais encore dans la période où Le Seigneur des Anneaux, c'était ma référence majeure dans cet univers littéraire-là. Et ben, c'est sûr que tu tombes un peu de haut. Quoi. Enfin, tu t'attends forcément... peut-être naïvement, mais je m'attendais à mieux que à ça, enfin, que le résultat que j'ai eu sous les yeux.
Ouais, bah le souci de ce Seigneur des Anneaux, hein, pour préciser un peu, c'est que Ralph Bakshi a utilisé une technique qui s'appelle la rotoscopie, qui consiste à filmer des vrais acteurs et à dessiner par-dessus. Donc ça donne un effet extrêmement étrange. Oui, Foradan.
En jeu vidéo de nos jours, ce serait une bande-annonce avec la précision « image non tirée du moteur du jeu
». Et encore, « image non tirée du moteur du jeu », mais à une certaine époque. Non, pour celles et ceux qui voudraient voir ce que c'est, hein, bien entendu, on vous incite à aller voir sur YouTube. Vous avez des moments qui sont vraiment extrêmement étranges. Moi, je sais que c'est une cassette vidéo qu'on m'a offert en 98 ou 99. Pour Noël, j'étais super content parce que même si je n'avais pas lu Le Seigneur des Anneaux, j'en avais entendu un petit peu parler. Je me disais que ça devait être vraiment génial, notamment encore une fois avec la promesse de l'affiche. Mon frère, ma sœur et moi, on a été hyper... Il y avait un malaise, en fait. Pendant le visionnage, il y avait quelque chose qui n'est pas passé du tout. En plus, c'est long.
C'est pas celui-là qui se termine aux deux tours ?
Si. Oui. Il va pas jusqu'au bout.
Il va pas jusqu'au bout.
Oui, mais la communauté de l'anneau va pas jusqu'au bout non plus.
Elle va même un peu plus loin.
Elle va. Alors, en tout cas, effectivement, c'est vrai que la fin de ce film se finit un petit peu en queue de poisson. Le problème, c'est que tu n'avais pas d'annonce. Ah, on a Foradan qui nous montre la couverture du dictionnaire de la fantasy. Chez Vendémiaire, et qui a la couverte, la fameuse
illustration
avec Gandalf, la fameuse illustration avec Gandalf et l'épée.
Voilà, c'est dire si l'illustration est quand même marquante. Maintenant, il y a l'illustration et il y a le film. Ouais. Chacun se prend son avis.
C'est ça. Je pense que cette parenthèse ouverte sur le Seigneur des Anneaux de Bakshi est quand même essentielle parce que malgré tous les défauts. Alors certains disent que ça a été un succès mais mis sur l'échelle de Ralph Bakshi, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui n'en a pas eu énormément voilà, en tout cas je pense que c'est quelque chose qui fait qu'il reste connu, mais c'est une influence de Peter Jackson pour Le Seigneur des Anneaux, clairement.
Oui, bah après c'est vrai qu'on avait vu des montages par exemple de soi-disant d'inspiration. Moi je... Le film était sorti en France hein, quand même en 80 hein, d'ailleurs, pas forcément une carrière très marquante. Enfin moi je me rappelle, quand on a commencé à parler en tout cas du film de Peter Jackson, du projet, pour moi c'était pas, enfin je connaissais personne dans mon entourage qui comptait prendre le film de Bakshi comme point de comparaison.
Mais il a peut-être aussi eu une seconde jeunesse avec justement la sortie du film de Peter Jackson.
Ah, c'est sûr, Warner Bros qui était son éditeur. En 2001, a sorti le DVD pour la première fois et a réédité la VHS parce qu'elle n'était plus disponible. Donc, un public a découvert Bakshi en 2001 parce que l'effet médiatique a fait que ça entraînait tout le monde.
Et bizarrement, on n'en a pas trop entendu parler quand même.
On est occupé à autre chose, peut-être.
Peut-être, oui. Peut-être,
c'est là qu'on découvre qu'il a tourné en douce une version du Hobbit.
C'est là qu'on découvre qu'il a tourné effectivement une version du Hobbit, tout à fait, qui est encore moins connue pour le coup. Je ne saurais même pas dire, il faudrait que je vérifie, mais en quelle année c'est sorti, je ne voudrais pas dire de bêtises. Parce que son Seigneur des Anneaux, c'est de 78. Il me semble que c'était dans les années 80.
Non, le Hobbit, c'est 77. C'était
ah bah 77, autant pour moi. Merci
Gilles. Mais après, c'est pas Bakshi, hein, du coup. Hein.
Ah,
c'est Bass,
effectivement.
Même si visuellement, voilà, il y a quand même, enfin, je trouve qu'il y a quand même quelques correspondances, on va dire. Ça baigne un peu dans ce jus d'époque.
C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire un avis sur la rotoscopie et sur ce que ça peut donner visuellement, pour celles et ceux qui ont OCS, vous avez Tigra, la glace et le feu de Ralph Bakshi, qui est disponible sur OCS, justement. Ça dure 1h15, c'est de la rotoscopie. Si vous aimez Frank Frazetta, vous pouvez y aller aussi, l'illustrateur. Voilà. C'est parce que je viens de voir ça hier, pas plus tard qu'hier, ça m'a interpellé. Mais pour revenir un petit peu sur du coup l'adaptation de Peter Jackson, qu'est-ce qui on va revenir un petit peu sur les tout débuts. Qu'est-ce qui fait que ça a été lancé comme ça? Pourquoi Peter Jackson? Pourquoi New Line?
Alors à la base, Peter Jackson, c'est quand même lui aussi il y avait une volonté d'adaptation de cette œuvre-là, hein, parce qu'à la base, c'est quand même un fan. C'est vrai qu'au départ, moi, je me souviens que le projet était prévu en deux films seulement. Donc, il a réussi à du temps où ça devait être chez Miramax. Et donc, c'est vrai que finalement, c'est devenu une trilogie produite par New Line. Une trilogie qui, d'ailleurs, n'a pas un budget faramineux, hein, puisque chaque film avait, en gros, au départ, puisque, rappelons qu'ils ont été tournés en même temps en Nouvelle-Zélande, mais si on compte pas les reshoots, mais sinon c'était 90 millions de dollars par film, ce qui est un budget tout à fait confortable, mais qui n'a rien à voir avec un budget de méga blockbuster, même à l'époque. Bon, on y reviendra après, mais c'est vrai que le succès du premier film, donc de La Communauté de l'Anneau, justement, a permis aussi d'augmenter le budget effets spéciaux et tournage additionnel des deux volets suivants, et aussi d'ailleurs salaire, des acteurs, hein, puisque par exemple Elijah Wood avait touché que 250 000 dollars pour La Communauté, ce qui est quand même loin d'un salaire mirobolant justement de méga star là aussi, même si Elijah Wood était connu, mais c'était pas un casting de grande star.
Ah non.
Et Harry, c'était pas Sean Connery pour Gandalf.
C'est Christopher Lee, quoi.
Oui, pour Saruman. Mais Christopher Lee, je suis pas sûr qu'il coûtait très cher, tu vois, même à l'époque. C'est quelqu'un qui était très connu dans le sens il a une grande filmographie qui remontait très loin, aux années 70, etc. Il y a eu des rôles marquants, mais je suis pas sûr qu'avoir Christopher Lee, vu le nombre de séries B dans lesquelles il a tourné,
c'est ça.
Tu pouvais l'avoir pour quand même, à mon avis, pas trop cher. Mais Elijah Wood, oui, avait son salaire entre le premier volet et les deux suivants, il est passé de 250 000 dollars à 1 million. Vu que forcément, le succès aidant, ça permettait d'être un peu plus généreux avec divers bonus. Mais alors, pour en revenir au tout début, moi, c'est vrai que j'avais découvert le projet dans un magazine, hein, parce qu'on était allé aussi, il faut se rappeler que quand on a commencé à en parler, mettons en 99, c'était les débuts d'Internet, hein, finalement, de l'Internet grand public. Donc moi, je me rappelle, ça devait être un studio magazine ou un truc comme ça, et ils avaient fait toute une hypothèse de casting. Donc je crois qu'ils imaginaient Hugh Jackman en Aragorn. Sean Connery en Gandalf, mais là pour le coup le rôle lui avait vraiment été proposé. Et puis rappelons qu'il avait refusé parce qu'il n'avait pas compris le scénario. Donc voilà.
Bon.
Et ainsi de suite, mais c'est vrai que il y avait eu pas mal même
Patrick Stewart avait été approché aussi pour Gandalf.
Aussi, ouais. Ouais. Et un des pires trucs dont je vous souviens, c'est Doug Ray Scott, qui est quand même un très mauvais acteur, qui aurait pu être aussi, qui était sur la liste aussi pour jouer Aragorn. Alors, c'était le méchant de Mission Impossible 2.
Oula, ah oui.
Le méchant qui faisait tout avec des stock options.
Ouais.
À côté Christopher Lee, voilà quoi.
Ah bah non, mais c'est sûr, à côté Christopher Lee, c'était autre chose, tout de suite. Mais oui, et Peter Jackson, c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était quand même quelqu'un qui avait un réalisateur, déjà pas forcément très connu, puisque néo-zélandais, qui en plus avait plutôt bonne réputation, même avec Forgotten Silver, par exemple, son faux documentaire, qui revenait sur l'histoire du cinéma. Mais, et puis aussi, son premier film, on va dire, hors série B, qui avait lancé la carrière de Kate Winslet, donc Créature Céleste. Mais avant, il faut quand même se rappeler que Peter Jackson, c'est Bad Taste, Brain Dead, Meet the Feebles, même s'il est encore moins connu en France, celui-là, parce que c'est un film de marionnette un peu destroy, on va dire, pour utiliser un mot qu'on n'emploie plus depuis 20 ans.
Mais Feebles, tu parles.
Oui.
Ouais.
Mais Bad Taste ou Brain Dead, c'est quand même c'est génial, mais je veux dire, c'est bien dégueulasse. T'imagines pas forcément, ce réalisateur-là qui est adepte des, voilà, de faire des films avec trois bouts de ficelle, gérer un budget de plusieurs dizaines de millions de dollars pour une adaptation d'une œuvre très connue et pas vraiment second degré comme peut l'être un Brain Dead. Mm-hmm. Voilà, on n'imaginait pas Gandalf, se dresser au milieu des Nazgûl et dire au nom de Ilúvatar, je vous botte le cul, comme le prêtre dans Brain Dead, des zombies au nom du Seigneur. Mais voilà, donc je pense qu'il y a quand même pas mal d'interrogations. Hein.
Pour la petite anecdote, si je peux me permettre, est-ce que vous connaissez le titre québécois de Bad Taste?
Non, je crois pas.
Je m'excuse par avance pour ce que je vais dire, mais c'est dans le cul.
Ah bon?
Bah, oui. L'apostrophe CUL. Je n'invente rien.
Très bien. Tu sais, les ailes de l'enfer, c'est bien Air Bagnard. Donc,
voilà.
Pourquoi pas?
Voilà, mais on aura appris. On apprend des choses en écoutant ce podcast.
Toujours.
Et j'espère que vous aussi.
D'ailleurs, pour en parler du contexte et des films évoqués, rappelons à nos publics que, avant la sortie de La Communauté de l'Anneau, un film américain, genre Les Ailes de l'Enfer, on l'avait en France environ un an plus tard. Que c'était un gros film, genre Titanic, où on retrouvait Kate Winslet, là, on avait 2 à 3 semaines d'attente. Harry Potter, qui est en 2001, mais quelques semaines avant, 3 semaines entre les États-Unis et la France. Et là, je me souviens que des gens attendaient que ça sorte aux États-Unis pour aller le voir en France, 3 ou 6 mois plus tard. Il a fallu leur dire non, ça sort en même temps. Et que le décalage horaire, c'était même sorti à Paris avant New York. Et ce n'était pas habituel du tout à l'époque.
C'est vrai. C'est vrai que ça m'avait fait très étrange quand j'avais entendu dire que ça allait être une sortie mondiale. C'était la première fois que j'entendais ça.
Oui, bah surtout en plus pour un film de SF ou fantasy. Enfin, on était quand même un peu en période creuse. Hein. Bien sûr, Harry Potter arrivait la même année, mais autrement. Enfin, je veux dire, la fantasy sur grand écran, quelques années plus tôt, c'était genre Cœur de Dragon en 96 ou Donjons et Dragons en 2000.
Oula.
Alors,
oula.
Non, mais est-ce que tu as été choqué par le méchant Profion?
Profion,
oui. C'était horrible.
Bien sûr.
Moi, j'étais plus choqué par Damodar et les trucs qui sortaient des oreilles.
Oui, je m'en rappelle.
C'était horrible aussi.
Oui.
Et aussi un truc que m'avait fait remarquer mon frère à l'époque, je parle toujours de Donjons et Dragons, même si on retrouve ça d'ailleurs finalement dans le Seigneur des Anneaux, donc de la communauté, je ne voudrais rien dire. Mais en fait, il y avait beaucoup de scènes de combat de jour, ce qui enlevait encore plus de cachet quand tu te bats avec des boules de feu mal faites. Ça serait sûrement mieux passé la nuit, en fait. Avec une nuit américaine. Au moins, c'est vrai que comme le Seigneur des Anneaux, c'est un univers finalement qui est assez low fantasy, on va dire.
On va reprendre une classification. On peut te dire que la magie n'est pas aussi extravagante.
C'est ça, voilà.
Exact.
Mais du coup, au moins, il n'y avait pas de bataille de boules de feu. Mais bon, tout ça pour dire plus sérieusement que c'est vrai que la fantasy sur grand écran n'était pas très très bien servie. Il y a dû avoir Kull aussi en 99, peut-être.
97, non?
97, oui, pardon, oui, voilà, donc avec Kevin Sorbo, donc
Hercule.
Mais voilà, c'était pas la période, c'était pas l'âge d'or de la fantasy sur grand écran, hein, si tant est qu'il y en ait eu un. Mais là, voilà, on était quand même pas très bien engagé avant l'arrivée de la communauté.
C'est vrai, là, c'est vrai, décembre 2001 a été, on l'a souvent dit, hein, mais était quand même un tournant avec Harry Potter, le premier volet qui sort. Tout début décembre et la communauté de l'anneau qui arrive le 19 décembre 2001 et qui va changer pas mal de choses.
Tout à fait.
Donc on l'a rappelé, le budget de la communauté de l'anneau, c'est 90 millions.
93 très précisément.
93 millions de dollars.
Hors inflation, alors on vous donne des chiffres pas indexés sur l'inflation, mais...
Ouais.
Enfin, c'est un peu à remettre dans son contexte, mais bon, il ne s'est pas passé 50 ans non plus. Donc,
Non. Juste à titre de comparaison, la série du Seigneur des Anneaux d'Amazon est à 465 millions pour l'instant.
Oui, voilà. c'est qu'un début.
Et c'est que le début, sachant que si on additionne les 3 Seigneurs des Anneaux, on est sur la trilogie, on est à mon avis à moins de 300 millions.
Oui, Après, voilà, c'est vrai qu'il faut aussi, souvent dans les budgets, il faut tenir compte du fait qu'on se... Là, on parle du budget vraiment production. Hein. Il faut évidemment rajouter quelques dizaines de millions de dollars de promo, bah, que ce soit produire des bandes-annonces, coller des affiches partout, etc., etc.
C'est ça.
Organiser, bien sûr, les tournées de presse des acteurs.
Ah oui, oui, c'est énormément de choses. Mais outre le budget, Foradan, tu voulais...
Oui, ce qu'il y avait de particulier aussi, c'est que les trilogies qu'on connaît au cinéma, tout le monde attend que le premier film sorte, rencontre son public, remplisse son budget, et le second film va sortir en production après. Ça marche pour Retour vers le futur, pour Star Wars, et ainsi de suite. Là, les trois films étaient prévus dès le début et tournés à la suite. Et dès le début, c'était peut-être pas prévu, mais nous, le public, nous étions entrés dans une ère sérielle où on avait le premier film, en décembre, au mois d'août, on avait le DVD version cinéma. Au mois de novembre, on avait le DVD version longue. Un mois plus tard, le deuxième film, et on repartait pour une boucle pendant 3 ans.
Vous voyez ce que c'est, les vrais fans?
Et ouais. Mais tu fais bien de le faire remarquer, parce que c'est vrai que cette périodicité joue beaucoup. Hein. Tu as un rendez-vous annuel, tu sais que le... Enfin voilà, tu n'as pas de flou, c'est pas comme... C'est pas comme, par exemple, pour prendre un exemple très récent, Dune, où pendant plusieurs semaines, on s'est demandé, mais est-ce que le film va rapporter assez pour qu'une suite soit officiellement droit à son feu vert? Là, c'est vrai que ben, la trilogie entière était... Et puis, ben, même s'il y avait des phases où les acteurs, on savait qu'ils retournaient en Nouvelle-Zélande, faire quelques semaines de tournage, etc. Mais c'est vrai que l'essentiel a été tourné en même temps. Ils ont beaucoup insisté, d'ailleurs... dans les interviews, sur le fait qu'ils étaient vraiment entre eux, que c'était vraiment une bulle, bah une vraie communauté pour le coup. On se rappellera du coup de leur tatouage, par exemple, en commun pour les acteurs de la communauté. Et voilà, c'est vrai que je pense que pour la cohérence d'ensemble, c'est quand même mieux de pouvoir faire tout d'un bloc plutôt que de, même si tu récupères les mêmes costumes, les mêmes décors, que tu retournes sur les mêmes lieux, mais si tu fais ça à 2 ans d'intervalle, bon, bah c'est pas la même chose que ce à quoi on a assisté ici. Et pour reprendre d'ailleurs, pour juste ajouter un petit truc, puisqu'on n'a pas fait encore de point Ericsson et qu'on n'aura peut-être pas l'occasion d'en faire un. Donc
allons-y, c'est le point Ericsson.
Mais c'est vrai que justement, le fait de, bah, on le voit là avec la sortie des romans du cycle, bah, avoir un rendez-vous très régulier avec les lecteurs, où tu sais que tu auras un tome entre 6 et 8 mois. Il n'y aura que 6, entre 6 et 8 mois entre 2 tomes, bah, ça permet de. Je pense que ça a permis aussi de maintenir l'attente d'une année sur l'autre pour ce qui est de la trilogie.
Oui, bien sûr. Bah, c'est l'avantage. Hein. Moi, je sais que à l'époque, j'avais 14 ans, 13, 14 ans. Et je sais pas si vous vous rappelez de du teaser, qui était le teaser pour la trilogie.
Ah, le tout premier, bien sûr.
Le tout premier où vous voyez avancer les acteurs, en fait. Juste dans les décors naturels, donc Aragorn, Elijah Wood, etc., Orlando Bloom. Et vous avez la musique de Warchord, et vous avez les années qui arrivent. Vous avez The Fellowship of the Ring, 2001.
Que le morceau soit de Warchord. Hein.
Ah bon ?
C'est pas Requiem for a Dream ?
Bon, on vérifiera, hein, on le remettra, on pourra même le mettre dans l'intro du podcast.
Exact.
Je pense que c'est un morceau composé, en fait, à la base, exprès pour la BO, hein. Enfin, pour la BO, pour le trailer.
Ah, peut-être, bon. Peut-être. Ah,
parce que j'ai souvenir d'une autre bande-annonce, c'est justement la fameuse musique de Requiem for a Dream. Là.
On parle de la toute première, qui effectivement faisait office un peu de bande-annonce pour la trilogie complète.
C'est
pour
ça.
Pour moi, c'est ça, hein, c'est un morceau originel. Original, ouais. Vraiment, fait pour ces images-là, quoi.
Ah, tu as sûrement raison.
Merci de le reconnaître.
Pour une fois.
Non, mais ta mémoire est infiniment meilleure que la mienne. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était un teaser qui annonçait que les trois films allaient sortir en 2001, 2002, 2003. Et c'est vrai que moi, ça m'avait rendu comme un fou parce que je me disais, mais c'est génial, il va y avoir un film par an. Pouh, en 2003, en plus, je serais super âgé, j'aurais au moins 16 ans.
Ouais, Manu. Ben, en plus, c'est l'époque où justement, comme je disais, Internet se démocratisait vraiment pour le grand public et où tu commençais à avoir des trucs genre « Regardez, cette bande-annonce a eu 1 million de vues et tout. » Enfin, c'était le début de ce genre de comparatif maintenant, alors que maintenant, de nos jours, enfin là, c'est depuis quelques années bien sûr, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau Marvel, par exemple, et qu'il y a une nouvelle bande-annonce, c'est tel film a battu le record de... de Spider-Man machin, qui a battu le record de The Eternals, enfin tu vois, chaque bande annonce entraîne son propre communiqué sur le nombre de vues en 24 heures, etc. Et c'était un peu, il y a 20 ans, le tout début de ça, quoi. Aussi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu un vrai engouement avant même, en fait, que
avant même la sortie, oui.
Ouais, avant même la sortie, hein, c'est qu'on va parler un petit peu de l'accueil du film. Toi, Gitana, tu t'en rappelles comment?
Bah, moi, j'avais... Attends, que je ne sais pas, 14 ans. Et c'était plutôt à l'époque Harry Potter qui l'emportait, parce que la fantaisie, j'avais lu Seigneur des Anneaux, je crois que c'était l'été d'avant ou 2 ans avant, mais j'étais plus dans une période que je n'ai jamais vraiment quittée d'ailleurs, Dragonlance, Drizzt, tout ça. Donc le bouquin, j'avais trouvé ça cool, mais sans plus, tandis que Harry Potter, ça c'était la hype, etc.
C'était sérieux.
Et en fait, j'ai vu les deux. Et j'ai vite laissé tomber Harry Potter. Voilà. Pour le côté Détroit, de toute façon, la Communauté de l'Anneau reste mon préféré. Pour les paysages, pour les décors, pour l'ambiance du tout. Et on passe d'un... On est enfermé dans un château pendant une heure et demie à... tu voyages, quoi. Les fameux plans aériens qui sont repris partout, même encore tout à l'heure dans La Roue du Temps... Il te transporte littéralement. Et c'est marquant. Et je pense que c'est le premier film que j'ai été revoir au cinéma.
On va parler tout à l'heure de nos souvenirs de cette séance unique. Justement, pour revenir un petit peu sur ce qu'était pour moi, effectivement, comme tu dis, cet accueil du film, ça a été vraiment un des très, très gros cartons de l'année 2001 parce que. Si je ne m'abuse, au box-office, il a été... Je crois que ça a fait 7 millions d'entrées en France.
Oui, environ.
Ce qui est vraiment... Qui est ouais. Ça finit juste derrière Harry Potter et...
Alors, au niveau des tuches,
Oui, juste derrière les tuches.
C'était déjà les tuches 7 à l'époque.
déjà, oui. on a pour Adam qui est en train de s'étouffer. non, mais le...
Non, à l'époque, c'était Taxi plutôt, non?
À l'époque, c'était même plutôt effectivement Taxi, mais peut-être pas forcément en 2001. Mais pour le coup, au box-office, on a quand même ça a bien entendu cartonné.
Box-office France, hein, pour le coup, là, tu précises.
Ouais, même au box-office international.
Oui, bien sûr. Bah là, pour le box-office international, c'est vrai qu'on était à environ à 900 millions de dollars de recettes, hein, puisque aux États-Unis, normalement, ils comptent plus en millions de dollars qu'en nombre de spectateurs bruts. Et voilà, c'était un des premiers films aussi, pareil, à friser le milliard de dollars de recettes, toujours évidemment sans compter l'inflation, parce que si on utilise l'inflation, et ben forcément c'est beaucoup plus bas que Star Wars, que Autant on emporte le vent, voilà. Mais bon, si on veut commencer à compter comme ça, ça va être compliqué. Donc voilà, c'était un très très joli succès, surtout pour un film de 3 heures, hein, rappelons-le, parce que du coup, plus le film est long, moins il y a forcément de séances dans l'absolu. C'est plus facile de multiplier les séances quand ton film il fait 1h40, générique compris, que 3h10. Donc voilà, non, c'était vraiment un gros succès public. Hein. Et puis niveau presse, puisque je me suis amusé à faire un petit tour sur les chroniques, les critiques cinéma de l'époque.
Fais-nous relever.
Globalement, c'était quand même du positif. Tu vois, je sais pas, le Parisien ou Première. Si je cite Première, c'est le résultat enthousiasmant. Au-delà de ce que l'on pouvait espérer, frôle l'idéal de cinéma pur que très peu Disney, Hitchcock, Powell, Kurosawa ont réussi à atteindre. Pas vraiment dire que c'est
obligé. Wow.
Le Monde aussi, une chronique plutôt positive. Une fois de plus, Peter Jackson, donc voilà, qui avait été déjà remarqué, hein, envisage d'abord l'imaginaire comme une manière d'aborder autrement la réalité, voire de l'éclairer. L'intelligence de Peter Jackson, son ironie, la liberté de ton de son scénario, enfin, liberté de ton, on va en discuter, mais ça reste quand même très proche de l'origine, du matériau d'origine. Son utilisation habile des extérieurs restitue la terre du milieu imaginée par Tolkien. Libération aussi, c'était très positif. Si on veut, voilà, le truc plus mitigé, il faut descendre, genre le Figaroscope, qui trouvait le film un peu lourdingue.
Un peu lourdingue.
Ouais, bah un peu long, quoi.
Ça manquait de Christian Clavier, sûrement.
C'est... voilà, ou Télérama. Télérama, c'est pas... la critique n'est pas mauvaise en soi, mais c'est vrai que Bon, bah là, par exemple, pour la résumer, hein, ivre de paysages grandioses, Peter Jackson, pourtant, s'essouffle à vouloir donner de l'ampleur à un conte qui semble le dépasser. On peut maintenant se demander s'il n'aurait pas dû franchement trahir Tolkien. L'affaire est à suivre dans les deux prochains volets de la série. Et puis, voilà, c'était une des chroniques, finalement, les plus mitigées, à part que aussi, par exemple, quelqu'un, on aurait dit une chronique de Mad Movies, mais ce n'est même pas ça, mais quelqu'un qui trouve que c'est dommage que Peter Jackson ait perdu son mauvais goût. Mais en même temps, voilà, j'ai envie de dire que quand tu adaptes Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même censé être un minimum respectueux, on va dire, du matériau d'origine, et je ne vois pas comment tu peux utiliser le mauvais goût de Bad Taste dans Le Seigneur des Anneaux. Ou alors, ça aurait été assez bizarre, quoi.
Et personne ne parle de la musique.
Dans les critiques presse, la seule mention de la musique que j'ai trouvée, justement, c'était dans le côté négatif, par le Figaroscope, qui la trouve un peu pompière.
Pompière.
Allez.
Voilà. Et c'est vrai que World Shore aussi, on aurait pu. Il y a des thèmes dont on se souvient encore, hein, je pense, mais là, on en parlera peut-être justement dans nos ressentis personnels. Mais
exact.
En tout cas, voilà pour ce qui est de l'accueil presse, qui était globalement bon. Hein. Il y avait eu.
Ah ouais.
Je parle même pas des trucs télé, il y a eu des reportages, etc. Mais non, le film avait plutôt été accueilli avec une certaine. Enfin, il a tout de suite acquis, je trouve, une certaine respectabilité. Quoi.
Et ouais, exactement. Exactement. Dans mes souvenirs, il y avait une attente et le film a soit les a dépassés, soit a été au moins très largement conforme à ce que.
Je t'interromps.
Oui, vas-y.
Donc, pour une fois, tu pouvais dire que tu étais allé voir un film de fantasy, genre celui-ci, sans trop baisser les yeux, tu vois. Si tu disais que tu étais allé voir Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit.
Oula.
À l'été 2001, justement, je crois. On te regardait un peu bizarrement.
On rappelle que le film Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit, a fait fermer le studio des images de synthèse de Squaresoft, hein, qui a été ensuite obligé de fusionner avec Enix aux pertes accumulées.
En même temps, quand tu fais... Alors, je sais que sur les thématiques, si, on retrouve des trucs très Final Fantasy, mais le film lui-même, je trouve, n'a rien à voir avec un Final Fantasy. Mais bon, c'est une autre question.
C'est une autre question. On pourrait en refaire également un podcast. Je n'aime pas du tout ce film. Je reconnais qu'il y a plein de trucs. Ça devait être une révolution. Hein. Tu te disais qu'en 2001, tu allais avoir Final Fantasy, Les Créatures de l'Esprit. Tu allais avoir Harry Potter. Tu allais avoir Seigneur des Anneaux. Bon, à la fin, il n'en restera que deux.
Ouais.
Et oui. Voilà. C'est une autre règle du Highlander. Dominique qui nous dit que le site Metacritic lui donne un score de 92 sur 100.
C'est beau.
Et on demandera également à Dominique si, comme tu l'as dit, Gillo, Peter Jackson a trahi Tolkien.
Non, il aurait dû trahir Tolkien.
Il aurait dû trahir.
Alors, je suis certain qu'il y a des gens qui estiment qu'il a trahi Tolkien.
Oh oui. Enfin, c'est pire avec les deux tours, mais dans mon souvenir. Mais oui. La communauté, encore, il me semble que ça allait à peu près pour les plus.
Oui, il y a quelques passages qui ont été supprimés, mais
oui, bien sûr.
Notamment au début, quoi. Oui.
Je précise, hein, je parlais de Foradan.
Je pense que tout le monde aura compris, mais la précision, ça fait jamais de
n'est-ce
mal.
Pas. Mais sinon, ce sera coupé au montage. Si vous entendez ça, c'est que ça n'a pas été coupé. Sinon, c'est que ça, si vous entendez
souvent,
pas...
Souvent, il suffit de dire ça pour que ça ne soit pas coupé. Hein, mais...
Exactement. Souvent, il suffit de dire ça pour que ce ne soit pas coupé. Donc, voilà. On ne l'a pas précisé, je crois, mais le tournage a quand même duré ces 14 mois.
14 mois pour la phase de tournage principal, effectivement.
Ouais.
Les fameux reshoots chaque année.
Bah d'ailleurs, même si j'imagine que la plupart des gens qui écoutent ce podcast l'ont déjà fait, il est fortement conseillé de regarder les bonus des versions longues des trois films, hein, qui montrent bien comment a été tourné le film, etc. Et qui vraiment donnent un autre regard sur la chose et surtout sur le travail de Peter Jackson. Parce qu'il était vraiment, avec ses journées de 20 heures, là...
Ah bah c'est un passionné, ça on peut pas lui enlever, je pense.
Ah oui, ça a été l'œuvre... On pourrait dire l'œuvre d'une vie. Bon, après, il a fait d'autres. Il a quand même fait d'autres choses, dont le Hobbit, malheureusement. Mmh. sera le on pourrait refaire un podcast. Je sais pas si on refera un podcast
sur les 20 ans du Hobbit.
Sur les 10 ans de la sortie du Hobbit.
Bah, on fera les 20 ans des deux tours, non, l'année prochaine.
Ça. On pourra faire également les 20 ans des deux tours. Vous avez une partie du planning des futurs podcasts Elbakin.net.
Vous êtes sûr d'en avoir un dans un an.
Exact, exact.
Mais les anniversaires, c'est quand même plus pratique.
On a dit qu'on allait essayer d'être plus. De revenir à un peu plus d'émissions quand même. Donc 14 mois de tournage, c'était entre 99 et 2000. Ça a quand même été, effectivement, on l'a précisé, qu'il y a eu cet effet vraiment, cet aspect communauté justement entre les acteurs. Ça se ressent vraiment à l'écran aussi. Et on va passer sur les souvenirs perso que vous avez. De ces moments, ce moment où vous avez découvert la communauté de l'anneau au cinéma. Ouais, Gilo.
Ah, c'est moi qui commence.
Ah, ça aurait pu être.
Oui, non, mais je peux commencer, pas de problème.
Vas-y, je t'ai entendu dire ah là là, donc je me suis dit.
Oui, bah, parce que comme tu l'as dit, bah, mine de rien, ça fait 20 ans, donc. Et il y a 10 ans, justement, j'avais écrit un article sur les 10 ans, à l'époque où le site s'appelait encore Elbakin.com, hein, pour cette première année. Et ben, moi, je l'ai vu tout simplement dans la fameuse séance des fans, pour les fans, non, au Max Linder à Panorama, qui avait été organisé en partenariat avec d'autres sites et aussi bah, d'ailleurs Metropolitan, le distributeur français, hein, qui était très très impliqué justement avec les fans à l'époque, enfin qui avait vraiment justement cherché cette connexion, on va dire,
avec la communauté, ouais.
C'est ça. Et on s'était retrouvé voilà en décembre 2001 pour mercredi 19 pour la fameuse sortie mondiale. Et notamment j'avais pu croiser Sylvadoc, hein, qui est donc un des cofondateurs du site, qui est encore là aujourd'hui. Et je me rappelle très bien, il était assis derrière moi pendant la séance. Et je crois que pendant l'intro de la communauté, enfin pendant l'intro du film avec la bataille, voilà la fin de la bataille, oui, avec Sauron,
Isildur,
la dernière alliance,
c'est ça. Je crois que j'ai dû me retourner genre 5 fois en 2 minutes tellement j'étais surexcité par le résultat. Et maintenant, mais voilà, c'est vrai que j'en garde un souvenir ému parce que au-delà de cet aspect communautaire, voilà, rencontrer des gens avec qui tu discutais depuis des mois, avec qui tu avais commencé à construire des choses aussi. C'est vrai que le film lui-même, moi je le trouve vraiment, je pense aussi que c'est mon préféré, enfin j'aime bien Le Retour du Roi, hein, mais je pense que la communauté de l'anneau il a un statut à part, justement parce que c'est lui qui a lancé la trilogie, et que avant, mine de rien, tu avais beau avoir toutes les bandes annonces que tu voulais, toutes les photos que possible, et bien, tu savais pas si le film allait être bon, s'il allait être à la hauteur des espérances, si d'un point de vue justement d'amateur de fantasy, enfin qui a grandi aussi avec Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai découvert quand j'étais en sixième. Ben voilà, t'as envie que le résultat soit à la hauteur, mais tu peux jamais en être certain. Et moi j'étais sorti vraiment conquis du cinéma, mais justement on a évoqué la musique de Howard Shore, que ce soit ça, enfin il y a des thèmes, pour moi ils sont entre guillemets légendaires, enfin ils sont ancrés dans ma tête. Comme très peu d'autres morceaux peuvent l'être. Et c'est vrai que moi, j'avais vraiment aimé la vision de Peter Jackson, que même si effectivement, il n'y a pas Tom Bombadil, etc. Mais moi, vraiment, j'avais adoré le film. Et je parle que de la version courte, forcément, hein, puisqu'à l'époque, aussi, la version longue, évidemment, c'était pas le moment. Mais non, moi, j'avais adoré le traitement. Spoiler, il y a des scènes très fortes, hein, comme Boromir. Moi j'avais même la vision. Alors voilà, la vision de l'anneau, de Sauron, elle peut être jugée caricaturale, perché sur sa tour, mais avec l'œil. Mais c'était un vrai coup de cœur, et c'est vraiment un de mes films. Je saurais même pas dire en fait si c'est vraiment un de mes films préférés, mais en tout cas, la communauté de l'anneau, pour moi, c'était une vraie réussite. C'est une vraie réussite. Pour moi, c'est un vrai film qui a, enfin pour moi c'est un film qui a une âme, alors que bah, si on compare, désolé pour la guéguerre, mais si on compare avec les Harry Potter, bon les Harry Potter, moi à part le prisonnier d'Azkaban, je les ai toujours trouvés très très lisses, très très plan-plan. Hein. Moi je me suis même endormi, bon c'était un an plus tard, mais je me suis même endormi au ciné pendant La Chambre des Secrets, donc. C'est pas avec, avec la trilogie et du coup bah, encore moins avec la communauté de l'anneau que ça risquait de m'arriver. Non, non, vraiment, moi, ça m'avait, c'est un film qui m'a marqué et j'en suis sorti vraiment ravi de cette séance et j'ai dû le revoir 3-4 fois, je pense. Ce qui m'arrivait jamais non plus, hein, pour rebondir sur ce que disait Gilles Tanas tout à l'heure.
On sent hein, effectivement que ça t'a marqué, mais de toute façon, je pense qu'il n'y en aura pas un autour de cette table. Hein,
surtout que j'avais 6 ans à l'époque.
Ça faisait combien de temps que tu avais 6 ans ?
Quelques temps. Tu étais fort jeune pour aller au cinéma seul.
Et pour gérer un site.
Et pour gérer un site, dis donc, vraiment d'une grande précocité, mon cher
toujours. Gilo.
Et Gilles Tanas, c'était le même effet?
Oui, clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, c'est vraiment plus qu'en fait, l'histoire en elle-même que je connaissais déjà, c'est vraiment les paysages et alors, la scène d'intro, voilà, qui est juste avec cette carte qui se met à brûler, avec la voix de Galadriel et tout. Voilà, c'était quelque chose quand même. Et la musique, moi, je trouve qu'on parle pas assez de la musique d'Howard Shore, quoi. Il y a des, nonobstant des scènes mythiques comme le. Bah, en plus, c'est une scène qui est visuellement intéressante. Musicalement et visuellement, c'est le pont de Casadou, par exemple. Tout le monde connaît ce thème. Ça a été repris des milliers et des milliards de fois. C'est la chanson numéro 13 de l'album. Et voilà, c'est quelque chose qui revient souvent. Et moi, ce qui me fait rire, c'est qu'en fait, c'est un film qui, encore aujourd'hui, 20 ans après, est un générateur de mèmes infini. Je ne sais pas si, on en parle souvent, mais... quand on se balade sur des groupes Facebook ou ce genre de choses qui n'ont pas de rapport premier avec le Seigneur des Anneaux, il y a toujours de temps en temps une image de Gandalf, une image de
Boromir,
sur les deux tours, mais voilà.
One does not simply walk into Mordor.
C'est ça, il y a Théoden aussi, ouais. Mais voilà. C'est toujours, c'est quelque chose qui est encore vivant 20 ans après, et je trouve que c'est assez rare en fait dans le cinéma qu'il y a des films qui sont devenus des classiques, qui ont été un petit peu mis sous cloche, et voilà, c'est... Mais là, le film est, d'une certaine manière, toujours vivant.
Ah, il repasse constamment à la télé. Oui, Gilo.
Non, mais c'est pour rebondir sur ce que dit Gitanas, c'est très vrai, je trouve, le côté... pardon. Le côté mème. Bah, encore ce matin, on a posté un mème sur le groupe Facebook d'Albakine. Et c'est le genre de statut qui a beaucoup plus de succès que n'importe quelle chronique ou n'importe quelle actu, enfin, sauf des très grosses actus, bien sûr, qui concernent par exemple justement la série du Seigneur des Anneaux par Amazon, ce genre de choses. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore très vivant. Et moi, j'avais lu un article aussi, je crois que je vérifierai, hein, si je dis des bêtises, ce sera précisé dans la news. Mais il y a le site Polygon qui a publié tout au long de l'année une série d'articles très intéressants justement sur les 20 ans de la communauté. Et il y avait un article sur les mèmes, en effet. Un autre aussi m'avait marqué, c'était le fait que je crois qu'il y a une... Enfin, le rouge à lèvres d'Arwen, il existe encore uniquement parce qu'il y a des gens fans du film qui l'achètent, quoi.
Ah oui.
Sinon, la teinte n'existerait plus. Donc, 20 ans après, voilà, c'est, le film a sauvé cette,
ce rouge à lèvres.
Ce rouge à lèvres, là, quoi. Donc, voilà, c'est comme quoi il y a des conséquences dans tous les domaines.
Bah, d'ailleurs, des Arwen, on en croise dans les établissements scolaires aujourd'hui.
C'est vrai aussi. Oui.
Non, mais.
Donc, c'est vrai.
Ah oui, oui.
Bah, ah,
je,
oui,
en tant qu'enseignant, oui, je peux te dire que oui. Ah, on a cool. D'autres, tu vois, par exemple, on a des Anakin, ce genre de choses, mais j'ai déjà croisé.
Vous avez des Anakin, alors ouais. Ça.
Oui, c'est voilà.
Oui, oui.
On ne juge pas.
Vous avez des Hayden Christensen ou...
Non, des Daenerys, ouais. Et des Khaleesi en primaire en ce moment.
Ah.
Ça va être dur dans quelques années.
Ça va être dur dans quelques années, ouais, effectivement. Bah,
après, c'est voilà, c'est un phénomène.
Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est toujours intéressant de voir effectivement comment ça a marqué. Hein. Vous avez la génération de nos parents, vous avez forcément des oncles, des tantes, des grands cousins qui portent des prénoms parce que
Parce que Jean-Paul Belmondo.
Parce que Jean-Paul Belmondo, parce que Yves Montand, donc il s'appelle Yves, parce que Serge Lama, bon, voilà, c'est la génération. Ah oui, oui, bien sûr. Ah, bien sûr.
Bah, par contre, il y a très peu de Jar Jar Binks.
Ouais,
c'est pas assez... forcément surprenant.
C'est pas forcément surprenant.
C'est dommage, c'est dommage. Mais...
non, mais ça aurait pu être la même génération. Hein, c'était
personnage très mésestimé.
Ouais.
Non, bah, du coup, en termes de souvenirs, c'est toi, c'est ce que tu as retenu, du coup, Gitana. C'est aussi le film que tu es allé voir plusieurs fois.
C'est ça. Bah, c'est, en fait, c'est la claque visuelle de l'ensemble. Voilà. Ouais. Plus que l'histoire ou les dialogues ou ce genre de choses. C'est vraiment. Bah, tu as 14 ans, tu es assis dans la salle de cinéma. Déjà, en plus, c'est. C'est peut-être un des premiers films que je suis allé voir tout seul, ça j'avoue, je ne me souviens pas. T'es là. Et puis bam! Vraiment une claque aussi bien sonore que visuelle. Et c'est. Pendant 3 heures, t'es assis dans le fauteuil et tu décroches pas, quoi. Comme moi, j'avais pas la chance d'y aller avec des copains comme Gillo, tu regardes et tu t'en prends plein les yeux. C'est vraiment.
C'est marquant. C'est très particulier. Mmh. Et toi, Foradan, c'est la même chose
Non, c'est fois 1000.
C'est fois 1000.
Bah, je connaissais Tolkien un peu à l'époque.
Un peu.
Depuis un peu moins de 10 ans.
Un peu.
Et je m'étais dit, je connaissais un peu le Bakshi et je m'étais dit, il y a moyen de faire des trucs qui ne me plairont pas.
Ah.
C'est déjà j'ai découvert problème. Internet pas pour en même temps. C'est même comme ça que j'ai rencontré Kilosen, parce qu'on traînait sur différents forums avant de voir que tout pelpakin.net.com à l'époque réunissait tout le monde. Les premières images, les premiers reportages, les premières photos, les premières discussions spéculatives, ça te prépare à l'attente. Et le 19 décembre, dans mon cinéma de campagne, 2 heures avant que ça ouvre, ça arrive jamais. Jamais il y a besoin d'arriver 2 heures en avance.
Ouais.
Mais je m'étais dit, au cas où il y aurait du monde, prenons pas le risque d'être à la porte. Et j'arrive, il y a déjà du monde.
Ah oui.
On commence à discuter entre gens dans le froid qui attendent. 2 heures plus tard, arrive le guichetier qui se rend compte la file d'attente est faite 2 fois la rue. Genre, ça monte et puis ça redescend. Et là, il nous demande, il se passe quoi aujourd'hui? On projette un truc?
Alors là, au cinéma.
Il y a 200 personnes qui lui font un face-palm géant.
Il avait l'air très concerné par son métier.
Bah, ouais. Il ouvre, il prend les tickets, il ne voit pas le film tout de suite. Hein,
oui, non, c'est sûr, mais...
Ouais.
Donc, on entre dans la salle. L'écran s'éteint. La lumière s'éteint. Les pubs sont finies. Et là, en quelques secondes, la musique, les images, on se rend compte dans la salle qu'on est en train de vivre un moment du cinéma. Les Hobbits, la Comté, Gandalf qui arrive. Tout est bon. Tout est formidable. Les feux d'artifice, on y est. On continue. On enchaîne. La Moria. La Lorienne, Boromir, générique de fin. Qu'est-ce qu'on fait tous? On retourne au guichet, on reprend un ticket, on rentre dans la salle.
Mais quand on t'entend comme ça, on a l'impression que toute c'est la salle a fait ça.
Ben, je l'ai fait le premier, mais j'ai vu que d'autres m'ont suivi.
C'est ça. D'accord.
3 séances de suite.
Ah oui?
C'était le premier jour. Je crois que pendant les vacances de Noël, j'ai dû le faire 10 à 12 fois.
Ah oui?
À chaque fois, j'avais l'impression, c'est pas possible, je vis un rêve éveillé. Ça peut pas être aussi juste, il manque des morceaux, il y a des changements. Et pourtant, ça colle, c'est... J'aurais voulu le voir en image, j'aurais pas pu imaginer différemment. C'était un choc.
Ouais.
Bon, la version longue, pratiquement un an plus tard, est arrivée, je me suis dit, c'est pas possible, c'est encore mieux. Alors, du coup, j'étais vraiment sur le charbon ardent pour attendre les 2 tours, parce que je me suis dit... Ouais. Ça augmente en puissance à chaque fois que je regarde. C'est extraordinaire. Il y a très, très peu de films que je revois aussi vite et aucun que je revois aussi vite à une telle fréquence. C'était un choc culturel.
Eh bien, 10 à 12 fois, je crois que tu as le record au moins des podcasteurs. Il faudra demander à nos homologues féminines, Alessia et Staffron.
Ben, si c'est en salle, oui. Je pense que oui. Après, si c'est tous les visionnages compris.
Ah non, j'en ai rajouté quelques autres.
Donc du coup, tu es proche, en termes de nombre de visionnages, tu es proche de 1, mais du 1 parfait. C'est ça que tu veux dire?
Ah,
Je crois que ma question
est... toi, Giggs, qui étais jeune à l'époque.
Eh bien, écoute, moi, ça reste effectivement, comme vous, hein, un souvenir, mon souvenir le plus marquant. Déjà, à l'époque, ça a été mon souvenir le plus marquant et ça le reste encore aujourd'hui. Moi, je me rappelle, petite anecdote, en fait, à l'époque, donc 2001, je voulais vraiment déjà voir Le Seigneur des Anneaux. Je ne me rappelle plus comment j'en avais entendu parler, mais je commençais à rentrer. C'est l'année où je commençais à rentrer vraiment pleinement dans la fantasy. Ma mère m'avait acheté les romans de Drist, Les Royaumes Oubliés, et je m'étais dit, c'est incroyable, jamais personne n'a fait mieux que ça. C'est quelque chose de fantastique et fabuleux. On en a déjà parlé dans un de nos précédents podcasts hein, sur les romans à licence. Je voulais voir Le Seigneur des Anneaux. Je jouais en fait pas mal à des jeux vidéo qui étaient assez typés fantasy. Je jouais à Zelda à l'époque. Je m'étais fait un ami qui m'avait prêté La Communauté de l'Anneau, le roman. Et je me suis dit, chouette, moi je vais le lire. Je vais le lire parce que comme ça, j'aurais lu le roman et je pourrais dire à ce moment-là, ouais, j'ai vu le film et j'ai lu le roman. Et en fait, j'ai commencé à le lire et ça m'a pris 3 mois parce que j'ai trouvé ça super dur. J'ai trouvé qu'il y avait des passages d'une longueur avec Tom Bombadil, avec certains moments, mais malgré tout, certains moments vraiment très épiques. Déjà, mon passage préféré, c'était la Moria, etc. Et je finis le roman quelques jours avant la sortie du Seigneur des Anneaux, de la Communauté de l'Anneau au cinéma. Donc déjà, je me dis, le pari est rempli. J'ai répété ça une fois par an à chaque fois. J'ai lu les deux tours en 2002, j'ai lu le Retour du Roi en 2003. Et le moment de la sortie cinéma, moi, je me rappelle que c'est un peu comme ces films qui font des raz-de-marée. Tu ne peux pas y aller tout de suite ou il faut que tu acceptes que tu ailles à une séance blindée. Et en fait, on y est allé pareil, avec de l'avance, avec mon père et mon frère, dans un petit cinéma, pas quelque chose de très grand. Il y avait quand même pas mal de monde, parce que de mémoire, on s'est retrouvés assez devant, et j'aime pas trop être devant. Et comme vous, en fait, comme vous, dès le départ, ça, le film se lance, et j'ai jamais rien vu de tel. T'es pris dans la magie, en fait, de ce que ça te raconte. De tout s'accorde en fait, tout est une symbiose parfaite entre l'image, le son, on en a parlé, l'acting, les décors, enfin il y a vraiment c'est une symphonie qui fait que le film reste hyper agréable, même encore aujourd'hui, même si certains effets ont vieilli, il y a quelque chose qui se dégage de la Communauté de l'Anneau, qui effectivement pour moi est mon préféré des trois. Contrairement à vous, je ne l'ai pas revu au cinéma. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que j'ai un côté, quand j'adore quelque chose, il y a quelque chose en moi qui fait que je me dis, ouais, mais si je le revois une deuxième fois, je vais un peu dénaturer. Je vais un peu dénaturer le super souvenir que j'ai. Et du coup, je n'ose pas trop le faire. Ça m'a pris peut-être, je pense, un an ou deux avant de revoir La Communauté de l'Anneau. À chaque fois que ça repasse à la télé, à chaque fois que je le revois, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des frissons. La Moria, pour moi, c'est... On ne fera pas mieux. Le fou ne passerait pas de Gandalf. C'est l'un des meilleurs moments de cinéma avec des frissons, avec quelque chose... Je ne pensais pas qu'on pouvait faire quelque chose d'aussi épique. À tout point de vue, à tous égards, j'étais déjà lancé un peu sur ce terrain de la fantasy. Ça se développait chez moi. Et Harry Potter était aussi passé par là. Le Seigneur des Anneaux, ce qui est devenu une piste de ski et s'est transformé en piste de bobsleigh. Ce n'est pas du tout une bonne analogie, mais...
Non, je
voulais faire une analogie pour dire que ça allait descendre encore plus vite, dévaler encore plus vite la piste. Mm-hmm. Mais bon, bref. Voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'on a tous...
Faire le saut à ski avec le petit et le grand tremplin.
Exactement. On était sur le petit tremplin et là, on passe vraiment sur le tremplin dans la stratosphère. Donc vraiment un souvenir incroyable. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, je m'adresse à nos chers auditeurs, hein, ça va être un podcast vraiment... C'est un podcast vraiment nostalgie, hein, vous l'aurez noté. Donc n'hésitez pas à venir nous dire hein, en forum ce que vous, votre souvenir de La Communauté de l'Anneau au cinéma,
ah bah, oui,
votre découverte, c'est toujours un moment marquant, quoi. Et donc, forcément, 20 ans après, on a pris un peu d'âge. Le film a pris un peu d'âge également, 2001-2021. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Bon, moi, je dirais qu'il y a quand même eu déjà quand c'est arrivé, il y a eu une augmentation des tentatives d'adaptation de séries littéraires de fantasy au cinéma, avec plus ou moins de réussite et moins que plus, on va dire.
Ouais, mais c'est souvent plus jeunesse quand même. Donc je pense souvent plus grâce à Harry Potter, je pense à, je sais pas, Spider Week, les Portes du Temps, Eragon, oui, voilà. Eragon, à la limite, vu que ça fait très Seigneur des Anneaux, ça peut être aussi Seigneur des Anneaux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adaptations qui, à mon avis, c'était quand même plus le succès d'Harry Potter que celui du Seigneur des Anneaux qui les a lancés, parce que finalement, de séries adultes, tu as eu des adaptations, genre le téléfilm de Terre-Mère, mais c'est pas une grande réussite
non plus. Oula, ouais. Ah ouais.
Donc, 20 ans après, moi, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est un peu comme le constat qu'on fait à chaque fois quand on parle des livres, avec le fait qu'il n'y ait pas forcément de ruissellement, que finalement, une adaptation qui a du succès fait vendre les livres de l'auteur, et encore les livres qui sont concernés directement par l'adaptation. On voit bien avec Martin où autant les ventes de Game of Thrones sont explosées, autant les ventes de ses autres bouquins n'ont pas du tout suivi. Donc voilà. Et même c'est un peu pareil au cinéma, je trouve. Il n'y a pas eu de temps. Enfin, j'ai pas l'impression que Le Seigneur des Anneaux fait vivre tant de, générer plutôt tant d'adaptations voulant surfer sur son succès. Même on parlait de La Roue du Temps tout à l'heure. Il a fallu 20 ans pour que ça arrive. Et encore, c'est parce que Amazon est dans une volonté de lutte face à Netflix et Apple et générer son propre contenu. Et parce qu'aussi, le patron est fan de fantasy, mais...
Ils ont investi le terrain, franchement.
C'est ça.
C'est eux, pour les prochaines années, si on attend quelque chose de fantasy et de, on va dire, épique, dans le sens beaucoup de budget, beaucoup de séries, ce sera Amazon. Mais
du coup...
Non, je voulais signaler aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais les plans. Je suis omnibulé par ces plans-là.
Je reviens sur les plans. Hein.
Mais en fait, il suffit que tu regardes n'importe quelle série ou film... un tant soit peu fantasy qui a suivi la communauté de l'anneau. Alors je dis pas que c'est Peter Jackson qui a inventé ces plans là hein, mais j'ai l'impression qu'il les a popularisés à tel point que maintenant tu ne peux pas voir un film ou une série de fantasy s'il n'y a pas un plan où tu vois le groupe de héros sur une crête, un promontoire ou que sais-je, et une vue d'hélicoptère, de drone maintenant si tu veux, et qui s'éloigne en mode regardez, la terre est grande mais les héros sont là, voilà.
C'est vrai qu'on a ces plans en ce moment dans La Roue du Temps. Au moment où vous écoutez ce podcast, La Roue du Temps est en cours de diffusion chez Amazon Prime.
Jetez-vous dessus, ça vaut le coup.
On retrouve quand même pas mal effectivement, d'inspiration, on va dire, jacksonienne.
Mais le film, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais paradoxalement, je trouve qu'il n'a pas si mal vieilli d'un point de vue visuel.
Ah non,
je compare par exemple à un Star Wars prélogie, qui a beaucoup plus de mal au niveau de ses effets spéciaux, le fait d'utiliser beaucoup de décors naturels et de costumes, de déguisements, de maquillage, voilà, fait que finalement, ça vieillit pas si mal. Alors, il y a des effets spéciaux qui ont un petit peu... Les gobelins dans la Moria, voilà. Et quand il y a la horde qui descend des piliers, ça se voit quand même. Hein. Mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait regardable, même, je pense, pour un jeune d'aujourd'hui.
Ah, le Balrog, moi, je le trouve toujours splendide. Hein. Ouais, Balrog,
Non, je suis d'accord aussi. Après, c'est vrai que quand tu parlais visuellement, on a vu que là aussi le succès du film a permis, par exemple, le golem de la communauté, c'est pas le même que celui du Retour du Roi, par exemple. Il y a eu une rallonge budgétaire. Mais effectivement, moi, je trouve que c'est un film qui se tient très bien, encore maintenant, quoi. Donc là-dessus, ouais. Oui, ça, comme tu le faisais remarquer, c'est vrai que ça reste le maître étalon de tous les films fantasy
pour l'instant,
qui est sorti depuis, quoi.
En plus d'avoir un côté maintenant Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. Oui, Foradan.
Oui, on parle de film parce que
oui.
Il y a 20 ans, ça sortait au cinéma. Ce qui se passait à la télé, c'était des séries comme Hercule et Xena.
Ah, Xena.
Ouais. Mais depuis 20 ans, ce qu'on a surtout vu, c'est que les producteurs, les studios se sont investis sur des séries longue durée. On a eu Game of Thrones. on a La Roue du Temps, Witcher. Ça passe plus au cinéma. La fantasy, elle se trouve sur des écrans plus petits.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr.
Mais et parce que... j'ai fait le calcul que le DVD, version longue de la communauté, c'était en 4 disques. 2 disques pour le film, 2 disques de bonus. Là, pour les bonus, ouais, c'est vraiment le bonheur. Autant, voire plus, pour les autres, films, ça vous fait un peu moins de 13 heures de film, tout compris, sans bonus. 13 heures maintenant, avec des épisodes de 50 minutes, on a 14 épisodes. Avec des séries qui font 8 ou 10 saisons, à 10 ou 12 épisodes par saison, on a largement 5 à 6 fois plus de contenu en nombre d'heures que la trilogie. Le public s'est habitué à voir beaucoup, beaucoup d'images pendant très, très longtemps.
Ouais.
Alors qu'avant, un film de 3 heures, c'était énorme.
Ah ouais, non, c'est vrai.
Quand on pense à Ben-Hur, par exemple, ou à Titanic, en 3 heures, mais tu as l'impression que d'avoir fait le tour du monde.
Alors, pour le coup, c'est une question qu'on pourra se poser, ou aussi laisser en suspens, mais... est-ce que ça n'a pas un peu conditionné les films de la génération, je vais dire les films de la génération 2010, où on a de plus en plus de mal à trouver des films qui se tiennent en une heure et demie. Et maintenant, j'ai plus l'impression que le commun, c'est ça tire vers les 2h, 2h15, 2h20. Alors après, c'est peut-être complètement indépendant.
Mais ça, c'est la faute de Pirates des Caraïbes.
Ah oui. S'il y a bien une série de films qui dont vous pouvez voir la première demi-heure et les 10 dernières minutes de la fin, c'est
on pourra en débattre, mais je suis pas d'accord.
Ah, on pourra faire un podcast là-dessus. Écoute,
un podcast pour les 20 ans de Pirates des Caraïbes.
Vous avez compris les thématiques de ces prochains mois. Il va y avoir un petit effet redite. Donc pour vous, vous pensez que la communauté de l'anneau par Jackson, ça a modifié vraiment une certaine vision de la fantasy quand même. On a commencé un peu à y répondre. C'est quand même on l'a dit, c'est Gilo, toi, tu penses que c'est vraiment... Il y a eu un effet Harry Potter avec pas mal d'adaptations jeunesse derrière. Il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu quand même les tentatives d'adaptation de Narnia aussi.
Pourquoi tentative ?
Il y a eu les adaptations de Narnia, effectivement.
Mais c'est pas tous les livres.
Oui. Qui ne sont pas parfaites, qui ont leur qualité.
Bah, si on compare avec tout le reste de ce qui a été produit en fantasy, j'avoue que là, ça n'engage que moi, on est quand même sur le haut du panier, même si le panier n'est pas très haut, que dans le bas, quoi, sur Narnia.
Ah oui, moi, je suis d'accord.
On trouve plus facilement du pire que du mieux, tu vois.
Oui,
facilement.
Certes. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a effectivement des... Oui, effectivement.
Mais c'est vrai que Narnia a un côté vraiment très inspiré des films de Peter Jackson. Quoi. Ça se ressent.
Ouais. Alors, on sent qu'il y avait une recherche. En tout cas, quand tu vois le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, on sent qu'il y a vraiment une recherche de ça. D'être le prochain Seigneur des Anneaux. Parce que, pour rappel, le film de Narnia sort en 2005. Donc c'est 2 ans après, donc on est déjà dans une période de... Il y a un vide, il n'y a plus de Seigneur des Anneaux. Donc il y a déjà un deuil.
Mais non, on a les DVD.
Il y a les DVD, mais il n'y a plus de nouveautés. Oui, Gilo.
Oui, non, sur la vision de la fantasy, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, moi je trouve que le film, il a apporté cette respectabilité... que finalement, qu'on ne trouvait pas forcément beaucoup avant, hein, je veux dire... Même un film comme Willow, qui pour moi est un souvenir de soirée télé de ma jeunesse, ça restait un film, on va dire, bon, pour toute la famille, mais qui visait quand même les enfants aussi, voire majoritairement. La communauté de l'anneau, bon, tu peux aller le voir assez jeune, mais finalement, je pensais pas, tu vas peut-être pas emmener un enfant de 5 ans voir la communauté de l'anneau au cinéma, enfin, je sais pas. Un peu limite quoi.
Ouais,
donc et puis bah comme le film est justement pas du tout second degré et qui traite quand même de thématiques comme les livres hein, de thématiques profondes et fortes, voilà ce que je disais, je trouve que ça a apporté quand même un peu de respectabilité à la fantasy qui n'était pas toujours typiquement la fantasy, mais on en a déjà parlé aussi dans moult podcasts, il y a toujours ce côté enfantin ou ce côté c'est pour m'évader de mon quotidien c'est ce que je retiens principalement finalement de ce que le film a apporté à l'époque et dans les années qui ont suivi.
Ouais, ouais, non, mais c'est exactement. Il y a cet effet-là. Il y a cet effet. Il y a également un effet communauté, tout simplement.
Oui.
Ça a quand même fédéré on peut en parler parce que Delbakin, hein, clairement.
On serait pas là déjà.
On serait pas là. On serait
non,
pas
c'est là. Sûr.
Ni vous ni moi ni vous, chers auditeurs, ça part quand même un petit peu de là. Comme tu le dis, Foradan mieux que moi, tu as quand même Elbakin, c'est quand même à la trilogie du Seigneur des Anneaux comme pilier fondateur. C'est toi qui le dis.
Parce que Gilosen forcément et Silvadoc étaient là bien avant moi, mais s'il n'y avait pas eu la trilogie qui sortait maintenant, est-ce qu'il y aurait eu besoin de faire un site internet pour en parler?
Très bonne question.
Bah pour en parler, pas forcément. Après, c'est sûr que nous, un de nos buts quand on a créé le site, c'était effectivement d'en parler, même si c'était aussi de parler de fantasy en général, notamment avec tout ce qui était chronique déjà à l'époque, etc. Chronique de romans, de BD et ce genre de choses. Et l'actu du genre en général. Mais évidemment, en 99, 2000, 2001, et même les deux années qu'on suit jusqu'à la sortie du Retour du Roi, l'univers de Tolkien occupait une partie très importante de la vie du site. C'est certain. Là-dessus, il n'y a pas de doute.
Et comme Internet s'est développé dans ces mêmes années-là aussi, parce qu'en plus des tickets de cinéma qui se payaient en francs, les connexions à 56 kilobits qui allaient lentement, qui coûtaient cher, ça s'est rapidement transformé pour devenir quelque chose de plus abordable. Du contenu qui va plus vite, des images, des vidéos, plus facile de se connecter longtemps, plus facile de se réunir et découvrir des gens qui ont la même passion à l'autre bout du monde. La communauté qu'on avait au cinéma, on l'a créée nous aussi de notre côté devant nos écrans.
Ah, c'est beau.
Ah oui, ouais, c'est beau, Foradan. Donc la communauté de l'écran.
Des écrans, lui.
La communauté. Vous allez dire que c'est pas pareil pour vous.
Si, non, mais c'était pas ironique. Hein. Ta formule est bien trouvée.
Oh, oui.
Là, je parle à vous, auditeurs.
Ah oui, moi.
Bah, ils ne vont pas te répondre, là, par contre.
Non, là,
ah bah si, sur le forum.
Sur le forum.
Vous pouvez répondre sur le forum, bien entendu. Pour, voilà pour cette vision, parce que ça a changé hein, pour la vision de la fantasy en général. Bon, on ne l'a pas dit non plus, hein, mais quand même, sur les étalages au niveau éditorial, il y a quand même eu... Ça va aussi avec un certain renouveau de l'offre. On a des rappels, on a quand même des maisons d'édition qui se créent à ce moment-là, on a quand même effectivement des ventes. Alors pour le Seigneur des Anneaux, en livre qui explose, mais effectivement des rayonnages qui se remplissent un petit peu quoi.
Il y a aussi pas mal de produits dérivés culturels qui sortent.
Ouais.
Et assez paradoxalement, par exemple si je prends le milieu du jeu vidéo, il n'y a pas de grands jeux Seigneur des Anneaux qui sont sortis, parce que j'ai souvenir par exemple des deux tours ou du Retour du Roi sur la génération GameCube, je sais plus
sur c'était GameCube quoi.
Voilà, c'était trop bien pour nous, mais ouais. Si on le regarde avec un œil un peu critique, le jeu il vaut pas tripette quoi.
Je pourrais y rejouer, je pense.
Oui, pour le côté nostalgique, etc. Il y a eu quelques bonnes adaptations. Il y a eu l'Otro.
Ouais.
Ça, je sais que Foradan en parlera mieux que moi. Il y a aussi eu, du côté du jeu de figurines, les éditions Atlas et Games Workshop qui avaient sorti le fameux jeu où on avait des petits gobelins, les elfes de l'Ultime Alliance dans les premiers numéros, etc. Et c'est un jeu qui perdure encore aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, Games Workshop a renouvelé la licence. Donc, ils payent une licence à New Line, je crois, pour exploiter les visuels, etc. Donc, c'est pour ça que vous pouvez retrouver des figurines, par exemple, Théoden au champ du Pélénor ou la communauté de l'anneau, avec des sculptures qui essaient de se rapprocher un petit peu des visages des acteurs, mais avec pas toujours de succès. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire sur certaines figurines. Et je voulais aussi dire un mot sur le jeu de rôle. Parce qu'avant la sortie des films, les gens qui aimaient l'univers jouaient à JRTM. Donc une espèce d'adaptation qui a ses adeptes, qui a énormément de qualités, mais qui a aussi pas mal de défauts d'un point de vue ludique. Et après, on a eu un jeu qui a été clairement inspiré des films, qui était une purge. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et depuis quelques années, il y a Alors, c'est Aventure entière du milieu, je crois, la version française, qui est illustrée par John Ho, qui a aussi collaboré au film, comme directeur artistique, je crois.
Oui, John Ho et Alan Lee. Hein.
Voilà, donc... tous les deux. Si vous voulez retrouver l'ambiance des films, c'est plus, je pense, vers ce jeu-là qu'il faut se retourner. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une licence qui, paradoxalement, a eu un gros succès au cinéma, mais pas énorme. Il n'y a pas d'éléments marquants autres en produits dérivés ludiques.
C'est vrai. Parce que je dois t'avouer, Foradan, que tu es le seul que je connaisse quasiment à jouer à Lord of the Rings online.
Ah, j'y ai joué il y a...
Tu y as joué ?
Il y a longtemps, quand il fallait payer l'abonnement.
Oui, mais techniquement, le jeu, il n'est pas adapté des films, de toute façon.
Ah non, justement, c'est... Non, non. Point à préciser, c'est que le jeu était en développement avant les films.
C'est ça.
Ouais.
Il a pris du retard pour plein de raisons, j'imagine. Et c'est en 2007 seulement qu'il est sorti.
Ah, en 2007 ?
Donc, c'est pour ça, bien après tous les films.
Il y a un décalage. Ah oui, il a pris
le parti, justement, de se détacher de l'imagerie des films. Mm-hmm. Dans certains cas, c'est très visuel. D'autres cas, on se dit, cette partie de la Moria, quand même, on l'a déjà vue quelque part.
Ouais.
Donc, ce qui est bien vu dans les films, souvent, on le retrouve quand même. Et puis parfois, c'est l'artiste qui fait sa propre vision.
Ouais.
Et
tout dépend de l'artiste.
On retrouve une certaine blondeur chez les elfes.
Là-dessus, il y a des vrais sujets sur les blonds elfes blonds.
Des vrais sujets.
Oui, parce que ça n'existe pas l'elfe blond par Kedmil. C'est comme l'elfe roux, c'est rare.
C'est un sujet de podcast.
C'est un sujet de. C'est un c'est autre comme les ailes du Balrog. Podcast. Mais il a des ailes, le Balrog, je crois.
C'est un sujet pour un colloque. Et j'en arrive à mon point suivant. Le fait qu'un film de fantasy qui plus est, on en parle au journal télévisé, on envoie des affiches dans le métro, ça propulse des livres de fantasy au premier rang des libraires. Ça a aussi permis, comme on le disait tout à l'heure, que la fantasy soit un genre qui ne soit pas honteux de sortir en public. On lit un livre, mais tout le monde en parle, donc ce n'est pas à cacher sous une couverture. Et ça a permis à des universitaires de proposer des thèses, des projets de doctorat et même des colloques qui avant étaient plus compliqués à faire en France. La Tolkien Society en Angleterre avait de l'avance sur nous, mais le premier Tolkien en France, de mémoire, c'est 2008. Mmh. Et en 2004, c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui faisait une exposition sur les dessins de John Ho qui ont servi au film. On y était, d'ailleurs, on mettra le lien. C'était aussi l'occasion de réunir le public, des films essentiellement, mais aussi des connaisseurs de Tolkien qui ont pu faire des conférences sur l'œuvre en lui-même. Mmh. S'il n'y avait pas eu le film, il y a peu de chances que la BNF se serait intéressée à Tolkien aussitôt.
Sachant que
le monde universitaire et les recherches ont aussi pu profiter de cette exposition qui a mis un gros coup de projecteur, ne serait-ce que pour comparer ce qu'Hollywood, enfin le cinéma en général, peut faire et ce qu'il y a derrière que le cinéma n'a pas encore montré.
Ouais, exactement. Et
rappelez-vous, chaque cérémonie des Oscars qui montrait que le film, non seulement avait un succès d'estime pour le public, mais les récompenses qui sont enchaînées au fil des années. Ouais. Quand on donne des statuettes en or à un film, au bout d'un moment, le grand public s'intéresse.
Il y a eu une tripotée de récompenses. Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais...
Il fallait une brouette pour les transporter à la fin.
Le raz-de-marée a été le retour du roi, mais la communauté de l'anneau n'a pas à rougir, puisqu'il y a quand même 4 Oscars. Meilleure musique de film, d'ailleurs, pour Howard Shore. Hein. On a la meilleure photographie pour Andrew Lesney. On a les meilleurs effets visuels, même le meilleur maquillage, ce qui est quand même vraiment amplement mérité.
Un gyroscope.
Oui, peut-être pas de... Peut-être pas le prix du Figaroscope, oui, c'est sûr. Ah, pour le meilleur maquillage, c'est quand même mérité, hein, sachant
que... Pour l'Oscar de la musique.
Ah oui, bah c'était quoi le terme ? C'était pompier ?
Oui, c'est ça.
Pompier. Musique de pompier égale Oscar. Donc,
c'est ça.
Voilà. Non, meilleur maquillage, on rappellera quand même que le pauvre Jonathan Rhys-Davies, donc l'acteur qui joue Gimli, avait régulièrement des crises d'eczéma à cause de son... autour des yeux. À cause de son maquillage. Donc, finalement, que c'est rapporté un Oscar, c'est, c'est pas plus mal. Mais bon, on va pas tous les citer, mais effectivement, il y a eu des BAFTA, il y a eu des Saturn Awards, il y a eu le prix Hugo aussi du meilleur film. Et ça, effectivement, a contribué à populariser le film, sachant que qui dit prix dit je ne sais combien de nominations également. Meilleure chanson originale pour Enya May It Be également, que vous retrouvez pendant le générique. Parce que c'est ça qui est bien avec Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, c'est que même le générique est cool.
C'est autre chose que Ed Sheeran. Hein.
Oh, j'aime bien Ed Sheeran, moi.
Sur c'est La Désolation de Smoke, je crois. C'est lui qui fait la chanson finale.
Ah, ben, tu vois, je l'avais complètement oublié. Tu vois, j'ai pas oublié Enya, mais j'ai complètement oublié qu'il était sur La Désolation de Smoke. Dommage, on fera peut-être.
Je ne vais pas manger.
Ouais. On fera peut-être un. Si on fait un spécial les 10 ans du Hobbit de Jackson, je ne suis pas sûr qu'on sera aussi dithyrambique et aussi ah, « Alors, votre souvenir d'être allé voir le Hobbit en 2012 » Je pense que là, la tonalité, à mon avis, du podcast,
ce sera un peu plus. Il faut faire les 10 ans du montage de fan qui fait un seul film en 3.
Exactement.
Ah, un seul film des 3.
Ouais, et encore, c'est à mon avis déjà quand même assez long. Mais ouais, la tonalité de ces podcasts ne sera pas la même. Ah non, pas douté. Fordan, tu parlais de la BNF qui, en 2004, a mis à l'honneur tout le travail de John Ho, mais il ne faut pas oublier que, du coup, ça a même été jusqu'à ce qu'en 2019, on ait quand même Tolkien, qui, pour le coup, a eu sa propre expo.
Il y a un mouvement qui a été lancé avec le film. Le film avait eu cette qualité de montrer que c'était une fantaisie avec des qualités financières. Ça mérite d'investir des projets, ça a incité des éditeurs à proposer des travaux de recherche. Mmh. Les universitaires se sont sentis plus libérés aussi pour proposer des travaux. La BNF, avec ce qui est sorti depuis, parce qu'on a eu plusieurs éditions de Tolkien qui sont parues ces 20 dernières années, et c'était plus facile à vendre quand c'était un genre qui soit moins confidentiel qu'auparavant. On se retrouve donc avec la BNF qui, en 2019, passe l'étape supérieure et fait la grande exposition dont on a déjà parlé.
Ouais.
Donc, quelque part, on a ici le point de départ d'une reconnaissance générale de la fantasy dans un monde qui l'a boudé de manière hautaine et méprisante pendant très longtemps.
Et effectivement.
Et je parle de l'exemple où mon professeur de français me disait bien que Tolkien avait écrit Le Silence des Agneaux. On était à ce niveau de sérieux-là. Ah, c'était dur.
Ouais, effectivement, c'était un peu rude.
J'ai toujours cru que c'était une légende urbaine.
C'est une légende urbaine.
Ouais, quand même.
Ouais, même à la campagne.
Tu as une part de vérité dans toutes les légendes urbaines, tu vois. Mais effectivement, coucou à ton professeur de français s'il nous écoute. C'est une belle conclusion, en tout cas, mon cher Foradan. La Communauté de l'Anneau a été un point de départ pour tout ce que...
Un catalyseur,
exactement. Je pense que c'est le
ça, c'est pour la roue du temps.
Le terme. Mais on va le reprendre sans vergogne, parce que ce film le mérite bien. On espère que ça vous aura donné envie, à la fin de ce podcast, d'aller rechercher votre DVD de La Communauté de l'Anneau et d'aller le remettre. De vous refaire.
Ils sont sur Prime.
Ils sont effectivement disponibles sur Amazon Prime.
En version cinéma, pas en version longue.
Oui. Ah ouais, à préciser.
Ce qui, pour La Communauté de l'Anneau, n'est pas encore trop gênant.
Ça va encore. Là, justement, au niveau de la disponibilité sur les plateformes de streaming, je me demandais s'il n'était pas présent sur Netflix aussi.
Il l'a été, mais ça alterne souvent. Après,
ça alterne.
On pourra faire un point.
De toute façon, c'est Amazon qui a les droits. Non
mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, vous trouverez Le Seigneur des Anneaux en streaming si vous n'avez pas déjà les DVD chez vous. Sinon, on rappelle que c'est un magnifique cadeau de Noël.
Ou dans même votre vidéo future, du coup.
Dans votre vidéo future, si vous arrivez à trouver encore un vidéo future pour vraiment revivre 2001.
Achetez-le en franc.
Achetez-le en franc et là, vous ferez vraiment un bond en arrière. C'est ce sans DeLorean.
Je suis désolé pour les gens qui sont abonnés seulement à Netflix, mais il n'y a que le Hobbit sur Netflix.
C'est vraiment malheureux. Donc, attendez d'abord notre podcast l'année prochaine, les 10 ans de du Hobbit, les 10 ans de l'apparition du Hobbit au cinéma. Voilà, ce sera, je pense que ça vaudra son pesant.
De pièces d'or.
Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écouté, d'avoir écouté cette émission. On rappelle que vous pouvez suivre Elbakin sur les réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, on est présent sur Facebook. On est également présent sur Instagram. C'est relativement récent, donc n'hésitez pas à nous suivre. On vous rappelle également que si vous voulez soutenir le site Elbakin et son association, soutenir la fantasy, vous pouvez faire un don sur la plateforme Hello Asso si vous voulez nous aider à maintenir la lumière allumée, nous aider sur la technique, sur
pour les feux du Gondor.
Exactement. Maintenir les feux du Gondor allumés. Vous pouvez faire ce don sur la plateforme de l'association et du site elbakin.net sur la plateforme Hello Asso. On vous remercie toutes et tous et on vous dit à la au prochain numéro. Salut tout le monde.
Salut, salut.
Salut.
Enough, Reggie. À moi, l'aventurière qui doit sauver.